Vous le sentez, vous le savez, elle est tapie dans les ténèbres et vous attend dans la pénombre. Elle attend un moment de faiblesse de votre part pour vous attraper les chevilles. Sous votre lit, derrière cette porte que vous fermez d'habitude à double tour, derrière cette fenêtre dont vous avez oublié de fermer les volets, elle prend la forme d'un monstre aux mains crochues dès que la lumière s'éteint. Et redevient une simple veste posée sur le dossier d'une chaise quand revient la clarté de la lampe. C'est ce qui vous donne les sueurs froides. Elle prend la forme d'une araignée velue ou d'une ombre difforme. Elle se joue de vous. Elle se moque et rigole de vos phobies. Elle s'insinue dans vos oreilles et prend la forme d'une histoire. Elle devient son et transforme vos rêves en cauchemars. Elle a plusieurs noms, mais vous la connaissez tous sous celui de Père. Ce soir, rien que pour vous, elle s'invite chez vous et vous susurre des contes qui ne vous laisseront pas fermer l'œil de la nuit. Elle vous accueille et vous souhaite la bienvenue. Oui, bienvenue dans son antre. Bienvenue dans Creepy Story.
Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Dan et vous écoutez l'épisode 52 de votre podcast horrifique préféré. Au programme de ce soir, je vous propose deux histoires à vous glacer le sang. La première fait partie de ma saga Bakulu, un culte monstrueux que j'ai créé et déjà mis en audio via plusieurs épisodes. Je vous ferai une petite rétrospective lors d'un prochain podcast. Quant à la deuxième, elle jouera avec vos nerfs et vos phobies, mais trêve de bavardage. Voici donc rien que pour vous la première histoire que j'ai intitulée « Conte à rebours ». Le présent. Vous êtes dressé devant le petit lit à barreaux blancs. Tous vos muscles sont tendus et vous font mal. Vos bras sont au-dessus de votre tête. Vous tenez fermement un grand couteau de cuisine entre vos mains pleines de sang, collant et rouge vif. À quelques centimètres plus bas dans le lit, un enfant vous regarde. Il vous sourit, il vous connaît. Il sait que vous n'aurez pas la force de le faire. Pourtant, vous devez le faire. Vous devez abattre le couteau sur lui. Vous devez le tuer. Vous devez le faire. Par la fenêtre en face du petit lit, vous pouvez voir les gyrophares de deux véhicules de police. Ils se rapprochent de la maison. Le bleu et le rouge tournoyant deviennent de plus en plus puissants. Ils sont accompagnés d'une sirène stridente qui vous prévient que vous n'avez plus beaucoup de temps devant vous. Vous devez le faire. L'enfant reste imperturbable. Vous avez l'impression qu'il ne comprend rien de ce qu'il se passe. Vous entendez soudain la porte de l'entrée céder sous les coups puissants de la police. Ils seront là dans quelques instants. Ils vont monter les escaliers pour arriver dans la chambre du bébé. Et ils vont vous stopper, vous abattre. Après tout, pourquoi ne le ferait-il pas? Vous vous apprêtez à tuer un enfant, tout de même, un petit bambin aux joues roses et aux immenses yeux bleus. 2 heures plus tôt, vous vous êtes réveillé sur le sol du salon de l'appartement cossu des gens chez qui vous vivez. Un immense mal de crâne vous électrise les neurones. Vous avez du mal à réfléchir et à savoir où vous êtes. Une barre d'acier incandescente semble traverser votre tête et vous donne des douleurs à l'arrière des globes oculaires. Toutes les lumières clignotent. Une légère odeur de brûlé flotte dans l'air. Après quelques minutes, vous arrivez à vous relever. Vous êtes sur le point de tomber, mais vous vous rattrapez de justesse au canapé à côté de vous. Vous reprenez vos esprits et analysez la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Vous apercevez plusieurs corps allongés sur le sol près de vous. Ils sont inconscients, sûrement morts pour beaucoup d'entre eux. Vous en dénombrez 7 au total. Le père et la mère de la famille qui vous a embauché, leurs 2 enfants, les parents du père et le frère de la mère. Machinalement, vous passez votre main sur votre visage. Vous sentez quelque chose de visqueux et chaud s'y déposer. Vous regardez votre main pour vous rendre compte que c'est du sang. Une grande quantité de sang frais. Tout le sol carrelé de la pièce en est recouvert. 3 semaines avant, vous ouvrez le flacon de médicaments et prenez 2 pilules. Vous tenez devant la porte de cet hôtel particulier du 6e arrondissement. Vous ne voulez pas avoir une crise à cause du stress. L'immense porte s'ouvre sur une bâtisse magnifique, décorée à merveille. C'est ici que vous allez passer 3 ou 4 ans, selon vos capacités à vous occuper de l'enfant. Votre oncle, qui travaille déjà pour la famille en tant que chauffeur particulier, a réussi à vous avoir un emploi dans cette famille. Vous devez vous occuper de leur seul et unique enfant, quand le couple sera au travail. Après quelques présentations, on vous fait faire le tour de la maison. L'immense salon donne sur la gigantesque cuisine. Celle-ci se situe à côté du grand bureau de monsieur. À l'étage, la pharaonique chambre parentale est attenante à la démesurée chambre de l'enfant. On vous explique rapidement que la femme a essayé plusieurs fois de tomber enceinte et qu'elle a eu beaucoup de mal. Alors, l'arrivée du petit méritait cette chambre interminable. Plus grande encore que n'importe lequel de vos studios d'antan. Vertigineux de démesure, exagérément fastueux pour un seul enfant. Vous vous dites qu'il en a de la chance. Ensuite, on passe à votre chambre, au 2e étage. Un quart de celle de l'enfant. Avec une salle de bain et des toilettes. La déco laisse un peu à désirer, mais bon, ça suffira. On vous laisse 2 heures pour vous installer avant de vous présenter l'enfant. Vous déballez vos affaires et restez assis sur le lit, les yeux dans le vide. Une semaine avant, un des agents de police vous pose des questions. Vous êtes assis sur un des canapés du salon, lui en face de vous, sur une chaise, avec un ordi portable sur les genoux. Les parents sont dans la cuisine, avec l'autre policier. L'enfant, lui, dort dans sa chambre. On vous demande si vous connaissiez la victime avant l'accident. Vous répondez que oui, que c'était une voisine qui habitait dans la rue, qu'elle voulait voir l'enfant et lui offrir un cadeau, qu'elle est sortie précipitamment de la chambre et qu'elle a chuté dans les escaliers. Vous l'avez retrouvée, une partie des vertèbres cervicales sortant du cou, ayant transpercé la chair avec force jet de sang noir. Par contre, ce que vous ne leur dites pas, c'est l'accident du facteur qui s'est fait renverser par une voiture hors de contrôle devant la maison, de son corps mou comme un pantin que l'on lâche après l'impact fatal. De cette fois où vous vous êtes réveillé auprès du cadavre de votre oncle. La gorge tranchée, la carotide complètement sortie de son corps, après avoir eu une crise et avoir perdu connaissance dans la chambre de l'enfant. Vous vous revoyez cacher le corps dans la labyrinthique cave de la demeure et avoir tout nettoyé avant le retour des parents partis en week-end. Vous ne leur parlez pas non plus des pigeons morts sur le rebord de la fenêtre de votre chambre, des grattements dans les murs, de vos pilules que vous devez absolument prendre tous les jours. De votre maladie et du fait que vous pensez que la maison est hantée et qu'elle veut du mal à l'enfant. D'ailleurs, avez-vous bien pris vos médicaments? Oui? Non? C'était quand la dernière prise? 3 ou 4 jours? Plus? Vous ne vous en rappelez pas. Les parents ne sont pas au courant de votre condition mentale. Pour eux, tout ceci est un triste enchaînement de circonstances malheureuses. Ça vous arrange. Les visions cauchemardesques qui vous perturbent chaque nuit n'arrangent rien. Il faut retrouver vos médicaments rapidement avant d'entendre les voix. 4 ans avant, vous êtes assis sur une table d'auscultation. Vos parents vous ont interné pour éviter le pire. Le verdict est tombé pas plus tard que le matin même. Schizophrénie. Voilà pourquoi vous êtes en colère, que vous entendez des choses, que vous pensez percevoir d'horribles images. On vous rassure, on vous donne des antipsychotiques. Et le calme revient. On vous prévient qu'il faut les prendre tous les jours, sous peine de revoir ces visions de bébés que vous poignardez, de chiots frappés à coups de bâton, d'oiseaux au cou fracassé. Alors vous les prenez tous les jours, et parfois, après un oubli, vous replongez dans les ténèbres. Vous êtes incontrôlable, il vous arrive même d'être inconscient plusieurs heures. Deux pilules, et vous êtes serein et libre. Vous reprenez une vie normale. Vous cherchez du boulot, vous papillonnez entre les jobs pourris et les studios mal insonorisés ou trop humides. Et puis un jour, le frère de votre mère vous propose un travail bien payé. 3 mois avant, la famille chez qui vous travaillez arrive dans le bureau de la dame qui s'occupe de trouver des parents pour des orphelins. Ils ne vous ont jamais dit comment ni pourquoi ils ont adopté le bébé. Ils sont là, devant l'enfant, aux joues roses, au sourire angélique. Ils sont conquis par cette petite merveille. On leur explique qu'il a été retrouvé dans un pavillon de banlieue, dans une cage, fermée par un lourd cadenas. Le corps de son père sans vie près de la cage, une balle dans la tête. Enfin, ce qu'il restait de sa tête. Ce sont les pompiers qui l'ont trouvé. Ils étaient sur place pour intervenir sur un incendie qui dévastait le lotissement pavillonnaire où était retrouvé le petit. Ils trouvèrent aussi plusieurs cadavres de femmes dans les décombres, encore fumant. Ils ne purent donner aucune explication. Les futurs parents, ne pouvant pas avoir d'enfants, sautèrent sur l'occasion et adoptèrent le petit garçon de seulement quelques mois. Ils lui donnèrent tout l'amour dont ils étaient capables, et au vu de leur situation, ils embauchèrent quelqu'un pour s'occuper du petit pendant leurs absences. Une disparut du jour au lendemain. L'autre fit un arrêt cardiaque. Quant à la troisième, cela faisait 3 semaines qu'elle était à la maison et que tout devenait étrange. 1 heure avant, vous avancez péniblement dans toutes les pièces de la maison, en enjambant les corps. Tout est poisseux autour de vous. Vous avez eu une crise. Chacune d'entre elles comporte son lot de cadavres, de morts et de carmin. Soudain, une pensée vous traverse l'esprit. L'enfant, il est seul, dans son lit, là-haut. Vous montez les marches qui vous séparent de lui. Vous entrez en trombe dans sa chambre. Il est vivant, assis, dans le noir. Il est serein, souriant même. Alors qu'en bas, c'est le chaos. Ce qui vous dérange le plus, c'est le sang qu'il y a autour de sa bouche. Un sang noir venant d'une carotide fraîchement déchirée. Vous comprenez, et au moment où vous approchez du petit lit, vous vous réveillez encore une fois parmi les cadavres. Vous courez vers la cuisine pour prendre un couteau et vous vous réveillez parmi les cadavres. Vous recommencez et le couteau à la main, vous êtes dans les escaliers qui mènent à la chambre, plongé dans les ténèbres. Puis vous vous réveillez au milieu des cadavres. Encore une fois, cuisine, couteau, escalier, chambre, ténèbres. Le présent, cela fait une éternité. Entrer dans cette maudite chambre fut un calvaire, mais vous avez enfin réussi. Vous vous approchez du lit, vous vous attendez à vous réveiller une fois de plus au milieu du charnier familial. Mais le petit est trop fatigué. Il vous laisse s'approcher de lui. Par la fenêtre de sa chambre, vous pouvez apercevoir les gyrophares de la police. Le bleu et le rouge vous brûlent les rétines. Vous devez le faire avant qu'il n'arrive. Vous entendez une porte qui explose, des pas dans l'escalier. Ils ne comprendront pas, c'est sûr. 2 policiers arrivent dans la chambre en vous demandant de déposer votre couteau au sol. Vous, vous ne les écoutez pas. Soudain, 2 coups retentissent. Le 2e vient faire éclater votre cœur en 1000 morceaux sanguignolants. Il explose dans votre cage thoracique. Vous vous effondrez, telle une poupée de chiffon. À présent, vous êtes un des 2 agents. Vous vous approchez du berceau. Assis dans celui-ci, il y a l'enfant. Il vous sourit. En vous tournant vers votre collègue, vous vous apercevez qu'il vous regarde étrangement. Il récite une sorte de prière dans une langue ancienne, celle de Bakulu, celui qui dort sous nos pieds. Il se met à genoux, non pas devant vous, non, mais devant l'enfant. et en vous retournant vers le petit bébé, vous sentez une de ses tentacules vous saisir à la gorge. Être confronté à une situation paranormale est pour certains un véritable cauchemar. Que feriez-vous si vous étiez face à face avec une entité qui vous veut du mal et dont on ne sait rien de lui, ni même comment la confronter ou la détruire? Beaucoup essaieront de la combattre, d'autres baisseront les bras et seront dominés, d'autres encore sombreront dans la folie pure. Pour ce dernier, nous pouvons retrouver ce profil dans beaucoup d'histoires d'H.P. Lovecraft. Un héros sûr de lui qui, après quelques révélations horribles et quelques visions d'apocalypse, sera englouti par un profond désespoir, une descente dans les entrailles infernales de la bête, jusqu'à devenir fou allié, préférant le suicide à la domination physique ou mentale d'un être supérieur venu du fond des âges obscurs. Très prochainement, mes chers amis, j'aimerais vous parler plus profondément de mon Bakulu, très inspiré par les écrits de Lovecraft. Mais pour le moment, concentrons-nous sur la deuxième histoire que j'ai intitulée « Descente vers l'inconnu ». Le temps était parfait, ni trop chaud, ni pas assez. Vous sentez un air rempli d'embrun marin vous caresser le visage et vous emplir les narines d'un parfum de vacances en bord de mer. Vous n'êtes pas seul. La personne qui vous accompagne pense elle aussi que c'est un jour idyllique pour une promenade sur la plage. Vous vous tenez par la main. Vous êtes bien ensemble. Un couple idéal, selon vos amis et votre famille. Vous rêvez d'une bague à son doigt, laissant présager un futur radieux, plein de bonheur et de joie. Une heure passe et vous avez envie que cette journée ne s'arrête jamais. Vous gardez votre main dans votre poche. À l'intérieur, il y a une boîte, avec laquelle vos doigts jouent en attendant de lui offrir ce qu'il y a à l'intérieur. Un vent tiède, la lumière du jour qui commence à baisser, une vue magnifique sur un vallon vert et fertile. C'est le moment, enfin. Vous sortez la boîte, vous l'ouvrez et vous lui tendez la bague sertie de diamants de votre grand-mère. Sous l'émotion, vos mains tremblent, tentant tant bien que mal de saisir la bague. Et maladroitement, l'anneau brillant vous tombe des mains. Il roule et disparaît dans l'herbe grasse. Vous vous jetez à quatre pattes pour le chercher. L'amour de votre vie se rapproche pour vous aider. En faisant le premier pas, son pied heurte la bague, qui fonce droit devant avant de finir sa route dans un son liquide. La bague vient de tomber dans une flaque. Enfin, c'est ce que vous pensez. Vous la cherchez toujours à quatre pattes, en fouillant dans l'herbe. Vous tombez sur un carré creusé à même le sol, dont les parois sont carrelées d'une mosaïque blanche et bleue. Pareil au carrelage d'une piscine. L'eau y est propre et transparente. Une légère odeur de chlore flotte dans l'air. C'est sûr, la bague est tombée dans ce petit bassin. Vous pensez immédiatement à la récupérer sans même vous poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'il y a un petit bassin creusé, plein d'eau, au milieu de ce vallon verdoyant longeant le littoral. La bague est plus importante que tout. Vous décidez de plonger votre bras, mais vous vous rendez compte que c'est bien plus profond que ce que vous ne pensiez. Sans plus attendre, vous vous émergez jusqu'à la taille, demandant à votre partenaire de vous tenir les jambes. Après quelques respirations, vous plongez, mais ce n'est pas encore suffisant. Par chance, le carré creusé est assez large pour laisser passer tout votre corps en entier. Vous vous demandez même s'il n'était pas plus petit lorsque vous êtes arrivé à côté. Bref, vous décidez donc de plonger entièrement, la tête la première, car il vous sera impossible de vous retourner une fois arrivé au fond pour attraper la bague. Les parois du bassin étant tout de même plutôt étroites pour pouvoir se retourner. Vous voilà donc complètement immergé, vous sentez les mains de votre amour vous lâcher. Pour vous, plus possible de faire marche arrière. Vous descendez un bon mètre dans ce couloir carrelé qui n'en finit plus. Vous savez que vous pouvez tenir environ 4 minutes sans respirer. Vos cours de plongée vous servent enfin. Vous arrivez à aller jusqu'à ce que vous prenez pour le fond du long tube que vous venez d'emprunter. Malheureusement, aucune trace de la bague. De plus, vous vous rendez compte que vous ne pouvez plus remonter. Impossible de revenir en arrière. Par chance, enfin, c'est ce que vous pensez. Le mince couloir d'eau fait un coude et vous continuez donc jusqu'à arriver dans un autre couloir immergé et toujours cerclé de mosaïques bleu clair et blanc. Vous commencez à sentir le désagrément du manque d'oxygène, mais vous avancez afin de trouver une possible sortie. Vous vous aidez à présent de vos mains pour avancer. Les parois du tunnel se resserrent de plus en plus autour de vous. La lumière baisse à chaque centimètre parcouru jusqu'à disparaître complètement. Vous voilà dans le noir complet. Un boyau très étroit et inondé, sans doute à plusieurs mètres sous terre, vous êtes à court d'oxygène dans vos poumons. Par réflexe, vous arrivez à vous retourner et vous voilà sur le dos. Cet effort a puisé encore plus le peu d'air qu'il vous restait. Le tunnel vous en serre de plus en plus. D'instinct, vous remontez la tête en direction de la paroi face à votre visage et vous vous rendez compte qu'il y a une poche d'air suffisamment conséquente pour avoir le nez hors de l'eau. Alors vous remplissez vos poumons d'air frais. L'air que vous respirez a des notes de mousse en décomposition. Vous continuez d'avancer dans les ténèbres et pour la première fois, vous pensez à la mort. Des larmes salées se mélangent à l'eau du tunnel. Soudain, vous sentez comme un courant qui devient de plus en plus fort et qui vous guide vers on ne sait où. Vous fermez les yeux et vous vous laissez porter, imaginant le pire. Vous quittez le tunnel qui est devenu tout juste assez large pour vous expulser. Et vous vous retrouvez dans une grande pièce, toujours carrelée. Une odeur de javel vous envahit les narines. Le lieu est vide et calme, éclairé par des torches qui brûlent en crépitant aux quatre coins de la pièce. Vous êtes seul, flottant sur le dos et respirant profondément, le regard fixé sur le plafond. Vous remarquez que celui-ci est assez bas. Vous vous redressez pour vous apercevoir que vous avez enfin pillé. Il y a un rebord. Vous sortez de l'eau. Le corps égratigné par les parois du tunnel. En vous mettant debout, vous êtes horrifié par les restes humains qui jonchent le sol tout autour du bassin. Vous regardez aussi les centaines de montres, de lunettes, de bagues ou de téléphones posés à côté de chaque tas d'ossements. Quelque chose brille dans les reflets orangés de la lumière des torches. C'est votre bague. Vous la saisissez et vous vous asseyez par terre, adossé au mur carrelé et froid. Il reste une petite place, sans cadavre ni objet perdu. C'est votre place. Elle vous attendait. Elle était là pour vous. Vous scrutez la pièce. Aucune fenêtre, aucune porte, aucune trappe. Impossible de passer par le tunnel par lequel vous êtes arrivé. Le courant est beaucoup trop fort. Alors vous restez là durant des heures, peut-être même des jours. Et puis des bulles commencent à jaillir de l'eau, partant du côté le plus à gauche du bassin pour se diriger vers vous. Tout doucement. Vous le savez, vous le comprenez parfaitement à présent. La chose qui vit ici a faim. Elle vous a tendu un piège pour vous attirer tout droit dans son estomac. Vous serrez très fort la bague de fiançailles en regardant la créature informe sortir de l'eau et se rapprocher encore et encore de votre visage. Vous prenez une dernière respiration et vous fermez les yeux. De tout temps, nous avons toujours eu peur de l'inconnu. Une porte grinçante renfermant de sombres secrets. Une fissure dans les murs qui laisse planer un sentiment de mauvais augure. Une trappe au sol d'où parviennent des bruits étranges et cauchemardesques. Ou bien, comme dans cette histoire, un trou menant vers nulle part. Une de mes plus grandes phobies est de rester coincé dans une salle sombre sans aucun moyen d'en sortir. Ou de rester coincé dans un tunnel pour l'éternité et attendre lentement de mourir de faim ou de soif. L'être humain a peur d'être coincé, bloqué, enfermé. De ne plus pouvoir bouger. Être dans l'impossibilité de se sortir d'un piège est une frustration morbide. Ne pas pouvoir faire marche arrière et avancer vers une destinée funeste nous plonge dans l'horreur la plus totale. Les parois qui se referment sur vos épaules, la lumière du jour qui disparaît toujours un peu plus, le boyau sans fin qui nous avale pour ne plus jamais nous recracher. Vous la sentez ? Cette panique intérieure qui vous enserre dans son étau d'épouvante. Prenez une grande respiration. Ce n'est qu'une histoire après tout. Ne vous inquiétez pas, vous reprendrez votre vie normale après ce podcast. Contrairement au pauvre héros de cette histoire. Vous venez d'écouter l'épisode 52 de Creepy Story, le dernier de cette saison 3. Ce podcast
non, non,
est...
Non, là ça peut plus durer, moi j'en ai marre. Je te supporte plus. Il faut que ça s'arrête, je veux que tu sortes de ma tête là.
Impossible.
Si, il faut que tu sortes. Il y a des auditeurs qui me l'ont fait savoir, ils en peuvent plus de ta voix.
Alors tu veux te débarrasser de moi? Après 3 ans ensemble, c'est pas très courageux non, ça. Non,
j'en peux plus. Et puis t'es grotesque, ça rime à rien de toute façon tout ça, et puis à chaque histoire, moi ça me fait mal à la gorge. Tu me tortures, tu m'épuises, bordel.
Sans moi, tu n'es rien. Sans moi, il n'y a pas de podcast, et tu le sais bien.
Non, c'est faux. C'est moi qui me tape tout le boulot.
C'est moi qui crée les histoires, ne l'oublie pas.
Ça c'est ce que tu crois, t'es que mon double en fait. J'aurais jamais dû te laisser entrer dans ma vie. Dans mon monde, je veux juste que tu partes.
Ok. Bien, très bien. Alors, fais comme tu veux. Tu es libre, après tout. Mais tu sais ce qu'il t'en coûte.
Oui, je sais parfaitement. Et puis je suis prêt à en assumer les conséquences. 7 ans de malheur, après tout, c'est rien par rapport à la liberté.
Très bien. Alors, tu sais ce qu'il te reste à faire.
Oui. Briser le miroir, pour être enfin seul.
Attends. Tu me laisseras sortir de temps en temps?
Je sais pas. Je suis pas sûr.
Sache juste une chose. Dès que tu feras le moindre faux pas, dès que tu relâcheras ta vigilance, je sortirai. Je sortirai de ma léthargie pour reprendre ce qui m'est dû. Et je te ferai souffrir. Et je te ferai regretter ton geste égoïste. Je vais attendre le bon moment. Et je frapperai sans pitié. Je vais te faire souffrir, imposteur. Je vais t'étriper et t'ouvrir en deux pour te vider. Tu vas le regretter. Je vais te détruire. Absorber ton âme.
Ok. Je reprends. Ce podcast est écrit, raconté et monté par moi, Dan, via La Sentence Prod. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à la partager un maximum autour de vous. En parler, c'est la faire vivre au-delà de ce podcast pour qu'il devienne à son tour une légende urbaine. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes d'écoute comme Apple Podcast, Anchor, Spotify, Google Podcast, Deezer et bien d'autres encore. Si mes histoires vous ont plu, alors vous pouvez me laisser quelques étoiles et des commentaires sur Apple Podcast ou Podcast Addict. Avoir vos retours me fait à chaque fois énormément plaisir, et surtout me motive, ça vous le savez. Vous pouvez aussi m'envoyer vos histoires sur podcastcreepystory@gmail.com. Et si vous voulez me donner un petit coup de pouce, sachez qu'il existe un Patreon dédié à Creepystory. Je vous laisse en description le lien pour y accéder. Ainsi, vous pourrez faire comme Nonor, Victoire, Marine, Waxy Kink, Rémi, Saki, Canbarge, Claire, Rodolphe, Fatfouine, Cora, Yop et Indigo, Coralie, Esther, Vincent, CC et Charlie. Je tiens aussi à remercier Clémentine, Mélanie, Ruby, Neko, Striker5991, Cynthia, Stradivarius, Merline et Félix. Un immense merci à Saki qui, comme vous avez pu le remarquer, m'a prêté sa voix pour l'intro de cet épisode. Si vous voulez avoir la chance de participer au podcast, n'hésitez pas à devenir Patreon et tout cela deviendra réalité. Vous pouvez aussi m'envoyer des petits messages audio que je me ferai un malin plaisir à passer lors de l'outro d'un prochain épisode. Un simple petit fichier audio enregistré avec votre téléphone fera l'affaire et envoyez-moi tout ça à podcastcreepystory@gmail.com. Merci à vous tous de continuer à m'écouter et à me soutenir. Vous êtes toujours aussi nombreux et ça me motive à continuer. Oui, à continuer pour une saison 4, à paraître dès la fin janvier. Je vous réserve quelques surprises, des nouvelles histoires, des fictions audio et des heures de cauchemar, bien sûr. En attendant, eh bien, je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode avec des histoires qui ne vous laisseront pas fermer l'œil de la nuit.